Béarn, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. https://fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 11 décembre 2023. Début de la troisième partie de l'enregistrement. Sixième section, économie. Première sous-section, revenu de la population. En 2017, le revenu fiscal médian par unité de consommation est de 21 306 euros en Béarn contre 21 120 euros en France métropolitaine. Une note précise, seules les communes de plus de 50 ménages fiscaux sont comptabilisées au sein de la liste des communes de Béarn. Les communes béarnaises disposent de revenus fiscaux médians par ménage les plus importants, sont notamment situées dans le pôle urbain de Pau. Les communes de Lé, Serre-Morla, Hydron, Buros et Peyry en Béarn possèdent par exemple chacun un revenu médian supérieur à 28 000 euros par unité de consommation. Sixième section, deuxième sous-section, emploi. En 2016, la population béarnaise âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 226 010 personnes, parmi lesquelles on comptait 73,9% d'actifs, dont 64,9% ayant un emploi et 9,0% de chômeurs. L'économie béarnaise est marquée par un taux de chômage relativement plus bas que celui observé par l'INSEE dans le reste du pays. Le taux de chômage trimestriel moyen observé en 2019 était de 6,1% pour la zone d'emploi d'Oloron-Sainte-Marie et de 6,9% pour la zone d'emploi de Pau, contre 7,8% en Nouvelle-Aquitaine et 8,2% pour la France métropolitaine sur la même période. Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par âge en 2016. Une note précise, chiffre obtenu en réalisant un comptage auprès des communes béarnaises recensées dans la liste des communes du Béarn. Population. Ensemble, 226 010. 15 à 24 ans, 40 317. 25 à 54 ans, 135 691. 55 à 64 ans, 50 002. Actifs. Ensemble, 167 014. 15 à 24 ans, 15 639. 25 à 54 ans, 124 277. 55 à 64 ans, 27 098. Taux d'activité, ensemble 73,9%, 15 à 24 ans 38,8%, 25 à 54 ans 91,6%, 55 à 64 ans 54,2%. Actifs ayant un emploi, ensemble 146 721, 15 à 24 ans 11 472, 25 à 54 ans 110 684, 55 à 64 ans, 24 565. Taux d'emploi, ensemble 64,9%, 15 à 24 ans, 28,5%, 25 à 54 ans, 81,6%, 55 à 64 ans, 49,1%. Sixième section, troisième sous-section, principaux secteurs d'activité. Pendant très longtemps, l'économie béarnaise se résume à une agriculture de subsistance ainsi qu'à un artisanat rural répondant aux besoins locaux. C'est à partir de la fin du XIIIe siècle qu'une évolution se dessine. Le Béarn profite alors de sa position géographique entre bassin aquitain et bassin de l'Èbre et de son statut de principauté pour développer une activité notable de commerce, notamment de transit. L'artisanat se développe aussi par la transformation de produits agricoles. Une note précise, le sous-sol béarnais fournit uniquement de la pierre et du sel. Cet artisanat prend racine surtout à Oloron et Né, à tel point que ces deux centres textiles atteignent un stade industriel vers la fin du XVe siècle. Malgré cette diversification progressive, l'agriculture demeure l'activité fondamentale du pays. Cet équilibre se poursuit globalement jusqu'au XIXe siècle avec domination de l'agriculture, succès du maïs à partir du XVIIIe siècle, l'importance du commerce et une industrie textile toujours dynamique. Une note précise, commerce vers l'Espagne et désormais les Antilles avec l'appui de nombreux émigrés béarnais. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la position géographique du Béarn, auparavant si bénéfique, devient un frein majeur à son économie. L'absence de transpyrénéens lors de l'arrivée des chemins de fer en Béarn est un véritable cul-de-sac. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'économie béarnaise connaît une double révolution avec la découverte du gisement de gaz de Lacq en 1951 et l'essor de la culture du maïs hybride, tout en voyant son industrie textile se réduire sensiblement. Aujourd'hui, l'économie béarnaise se trouve notamment vers l'industrie aéronautique ainsi que les géosciences. L'agriculture a perdu sa domination mais garde toujours un poids significatif dans le paysage béarnais. L'essor de l'agglomération paloise permet le développement d'une activité tertiaire, dont administrative, significative. Le tableau ci-dessous détaille le nombre de postes implantés en Béarn selon leur secteur d'activité. Une note précise, chiffre obtenu en réalisant un comptage auprès des communes béarnaises recensées dans la liste des communes du Béarn. Structure de l'économie béarnaise au 31 décembre 2015. Ensemble, nombre de postes 119 409. Agriculture, sylviculture et pêche, nombre de postes 1084, soit 0,9%. Industrie, 21 009 postes, soit 17,6%. Construction, 7 362 postes, soit 6,2%. Commerce, transport et services divers, 49 430 postes, soit 41,4%. Administration publique, enseignement, santé et action sociale, 40 524 postes, soit 33,9%. Le tableau ci-dessous détaille les établissements actifs par secteur d'activité au regard du nombre de salariés. Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015. Ensemble, total 38 386, 0 salarié 27 298, 1 à 9 salariés 8 912, 10 à 19 salariés 1081, 20 à 49 salariés 702, 50 salariés ou plus 393. Agriculture, sylviculture et pêche. Total 4719, soit 12,3%. 0 salariés 4255, 1 à 9 salariés 449, 10 à 19 salariés 11, 20 à 49 salariés 3, 50 salariés ou plus 1. Industrie, total 2399, soit 6,2%, 0 salariés 1381, 1 à 9 salariés 690, 10 à 19 salariés 157, 20 à 49 salariés 93, 50 salariés ou plus 78. Construction, total 3755, soit 9,8%, 0 salariés 2653, 1 à 9 salariés 930, 10 à 19 salariés 99, 20 à 49 salariés 53, 50 salariés ou plus 20. Commerce, transport, services divers. Total 21 451, soit 55,9%. 0 salariés 14 905, 1 à 9 salariés 5 567, 10 à 19 salariés 548, 20 à 49 salariés 310, 50 salariés ou plus 121. Administration publique, enseignement, santé, action sociale. Total, 6062, soit 15,8%. 0 salariés, 4104. 1 à 9 salariés, 1276. 10 à 19 salariés, 266. 20 à 49 salariés, 243. 50 salariés ou plus, 173. Agriculture et agroalimentaire. Cette image illustre ce paragraphe. Les pasteurs transhumants dominent la société agro-pastorale béarnaise. Travail de la vigne en Jurançon. Un berger au Salois. L'attelage béarnais est au centre des pratiques agricoles. La monoculture du maïs marque les paysages béarnais du XXe siècle. L'élevage reste au cœur de l'activité agricole du Béarn. Le siège du groupe coopératif Euralis à Lescar. L'activité agricole domine l'économie béarnaise durant de nombreux siècles avant de se faire supplanter au cours du XIXe siècle et surtout du XXe siècle par les secteurs secondaires et tertiaires. Les vallées des Pyrénées béarnaises sont traditionnellement spécialisées dans l'élevage, tandis que le Piémont est plus diversifié avec de l'élevage, mais aussi de la culture. La domination des pasteurs montagnards sur les paysages du Piémont marque la tradition agro-pastorale du Béarn pendant plus d'un millénaire. Une note précise. Les pasteurs montagnards imposent le maintien à l'état de friches de vastes terrains sur leur parcours de transhumance. Le pont long oppose notamment les pasteurs montagnards aux paysans du Piémont qui doivent s'incliner face à la pression constante des pasteurs. Il mène plusieurs expéditions punitives, comme en 1480 avec 1500 hommes. La polyculture, ainsi que le morcellement parcellaire important, caractérise également pendant longtemps le paysage du Piémont. La viticulture se développe dès le XIVe siècle dans le Vic-Bi, entre Morlaix et Lambeil, ainsi que sur les coteaux de Jurançon et de Monéen. Le travail du lin se répand au XVe siècle dans les vallées du Gave, prémisse d'une industrie textile porteuse dans la région de Ney. Des exploitations forestières se développent à partir du XVIIe siècle, en particulier dans les vallées d'Aspe et de Barétou. Une note précise, les troncs sont transportés sous la forme de radeaux qui descendent la Gave de Pau puis la Dour jusqu'à Bayonne. Le maïs est introduit à partir du XVIIe siècle. Il connaît un fort succès au XVIIIe siècle et change les paysages béarnais pour reléguer les autres céréales au second plan. Au XXe siècle, l'emploi agricole recule fortement avec l'utilisation systématique des tracteurs. Le remembrement des terres favorise l'émergence d'exploitations de taille plus importante. La coopérative Euralis, une note précise anciennement nommée Coop de Pau, joue un rôle central pour l'agriculture béarnaise. Il emploie environ 300 personnes de son siège à l'Escar et 5000 personnes dans le monde. Plusieurs transformateurs agricolo-alimentaires ont une implantation notable en Béarn, dont le chocolatier suisse Lindt und Sprüngli à Oloron-Sainte-Marie, 600 salariés permanents, la fromagerie de Chaume installée à Jurançon, 350 salariés, et la laiterie Sodial à Long, 200 salariés. Le territoire béarnais intègre plusieurs AOC et IGP, dont notamment le fromage d'Ossau-Iraty, le jambon de Bayonne, l'agneau de lait de Pyrénées, les vins du Jurançon, du Madiran, Pacherec du Vélib et du Béarn-Belloc. Industrie manufacturière. L'usine Safran Hélicoptère Égine de Bordes emploie 2500 salariés, illustre ce paragraphe. Dès la fin du XVe siècle, Oloron et Ney deviennent des centres textiles notables, dépassant le simple cadre de l'artisanat pour atteindre un stade industriel. Ils se spécialisent alors dans le travail de la laine. Vers la fin du XVIe siècle, Orthez et Pontac se concentrent sur le travail du cuir. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'industrie textile béarnaise connaît une prospérité sans précédent, avec des produits en laine, une note précise, cordeilla, épaisse bure, rase, bure pour les capes, fès, mouchoir, linge de table. Et en lin, qui s'exploite notamment vers l'Espagne et les Antilles. Une note précise, grâce à la présence de la diaspora béarnaise expatriée. L'industrie textile emploie alors 9000 personnes dans la région de l'Oron. Elle emploie également 6000 personnes dans la région paloise. La Révolution française marque un coup d'arrêt à la prospérité de l'industrie textile béarnaise, affectée par le renforcement des frontières, le manque de capitaux et la stagnation technique. Au milieu du XIXe siècle, l'activité repart avec l'achat de machines modernes. Ney en profite particulièrement et on y produit alors environ 8000 bérets, en grande partie destinés à la Navarre. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le Béarn subit la concurrence des usines textiles du nord de la France. Une note précise, celle-ci bénéficie d'un approvisionnement en charbon pour utiliser des machines à vapeur. Au XXe siècle, l'industrie textile béarnaise se réduit sensiblement sous l'effet d'une concurrence internationale croissante. En 2011, la filière textile compte 48 établissements qui rassemblent 517 salariés. Une note précise, habillement, fabrication de textiles, fabrication de chaussures. L'entreprise L'Olière, installée à Oloron-Sainte-Marie, emploie par exemple une cinquantaine de personnes pour la fabrication de bérets. Auparavant essentiellement consacrée au textile, l'industrie manufacturière du Béarn s'oriente vers d'autres types de production au cours du XXe siècle. L'industrie aéronautique prend un poids grandissant tout au long de cette période. La venue des frères Wright dès 1909 fait du Béarn un précurseur en la matière. Safran Helicopter Engines à Bordes, 2500 salariés, et Safran Landing System à Bidault, 815 salariés, sont des exemples majeurs d'une industrie qui compte une myriade de sous-traitants dans la région. Le Béarn fait partie du pôle de compétitivité Aerospace Valley depuis 2005. Le bassin de lac profite également de l'extraction de gaz pour attirer des industriels désireux de profiter de cette source d'énergie, tout comme la classification Seveso 2 du site Toray Industries, installé à Abydos, 430 salariés, produit ainsi de la fibre de carbone destinée aux industries aéronautiques et automobiles. Énergie. Une image, le gisement du gaz de lac est découvert en 1951, illustre ce paragraphe. Traversé par de nombreux cours d'eau, le Béarn profite de cette ressource comme source d'énergie. Dès le début du Moyen Âge, les moulins à eau permettent notamment de moudre le blé. Au XXe siècle, de nombreuses centrales hydroélectriques sont installées le long des cours d'eau béarnais avec la constitution des lacs de barrage à Artoust, Fabrèges, Bioz-Artigues ou encore Castet. Une note précise, le lac d'Estaing est lui situé en Espagne, bien que le barrage se trouve du côté béarnais. La centrale de Forges d'Abdel est la première installée en Haut-Béarn en 1909. Plus en aval, des centrales hydroélectriques sont situées à Azap-Arros, Oloron-Sainte-Marie, Orthez, Baie de Béarn et Puyot. Plusieurs entreprises se partagent l'exploitation de ces centrales. La CHEM, filiale d'Engie, s'occupe des barrages situés au Valais d'Ossau, tandis que EDF Hydraulique Adour et Gave se chargent des barrages de la vallée d'Aspe en aval des Pyrénées. Le sous-sol béarnais ne contient pas de charbon. Les entreprises béarnaises doivent donc importer cette source d'énergie indispensable aux machines à vapeur au XIXe siècle. Après 1945, la France prospecte des sous-sols à la recherche de pétrole et de gaz pour gagner en indépendance énergétique. Fin 1949, un petit gisement de pétrole est découvert près de Lac par la SNPA. Toujours à la recherche de poches d'huile, une équipe de forage découvre un gisement de gaz le 19 décembre 1951 sur le sondage Lac 3. Une violente éruption de gaz se produit sur ce forage d'une profondeur de 3500 mètres. L'éruption reste incontrôlable pendant 4 nuits et 5 jours. Le gisement s'avère être exceptionnel. Il contient 262 milliards de mètres cubes. Le gaz extrait est particulièrement corrosif, ce qui oblige les ingénieurs de Vallourec à concevoir un acier capable d'y résister. L'exploitation du gaz commence finalement en avril 1957. Une note précise, l'exploitation monte progressivement en gamme, en passant d'un million de mètres cubes traités quotidiennement jusqu'à un pic de 33 millions de mètres cubes en 1971. Ce rythme se maintient jusqu'au milieu des années 1980 avant de se stabiliser à environ 8 millions de mètres cubes jusqu'au début des années 2000. Le site de Lac centralise plusieurs autres gisements béarnais de plus petite taille, comme ceux de Meillon et Saint-Faust, découverts en 1965 et 1966. La SNPA, devenue Elf Aquitaine en 1976, emploie rapidement 4000 personnes sur place. André Labarrère qualifie le gisement de « miracle béarnais ». Il modifie profondément et de manière durable la vie économique du pays. Il permet l'embauche de nombreux agriculteurs locaux, puis d'ouvriers venus d'autres bassins industriels français. La ville nouvelle de Mourant est bâtie pour accueillir cet afflux de main-d'œuvre. Le classement Céveso du site permet l'accueil d'activités industrielles à risque pour la fabrication d'éthylène, de styrène et de chimie fine. Une diversification qui permet au bassin de Lac de se reconvertir en 2013 après l'arrêt de la commercialisation du gaz. Le gaz restant est utilisé pour apprivoisonner les entreprises du site. Une note précise, le groupe Total s'est engagé à conserver 3% du gisement de gaz pour permettre aux industriels du bassin de Lac de s'alimenter en énergie à bon marché pendant 30 ans. Le Béarn conserve une production pétrolière dont le gisement du Vic Bill, découvert en 1979, est exploité par le groupe canadien Vermilion Energy, 800 barils par jour. La production du gaz de Lac implique la création d'un réseau de gazoducs pour acheminer cette ressource vers le reste de la France. Auparavant filiale du groupe Total, héritier d'Elf Aquitaine, le groupe Terega, passé à Pau, 650 salariés, assure le transport et le stockage de gaz naturel en France. Géosciences et pétrochimie. L'exploitation du gisement de gaz de Lac à partir de 1957 marque le point de départ d'une spécialisation du Béarn dans le domaine des géosciences. Confronté à un gaz particulièrement difficile à extraire, une note précise, lors de la découverte du gisement de Lac en 1951, des spécialistes américains sont appelés pour aider à son exploitation. Leur jugement est alors affirmatif, ce gisement est inexploitable selon eux. Les équipes de la SNPA, puis d'Elf Aquitaine, développent des compétences pointues pour l'exploitation des hydrocarbures. Édifié à partir de 1985, au nord de Pau, le Centre scientifique et technique Jean Fégé, CSTJF, est l'héritier direct des pionniers de Lac. Avec 2800 salariés, il est aujourd'hui le principal centre technique et de recherche scientifique du groupe pétrolier français Total, ce qui en fait aussi le troisième plus grand centre de recherche et de développement en France. Le CSTJF compte l'un des plus puissants supercalculateurs au monde. Nommé Pangea, il est le plus puissant calculateur mondial dans le domaine industriel. Basé à Pau, Avegna est le seul pôle de compétitivité français dans le domaine des géosciences. En lien direct avec l'exploitation du gaz de lac, le Béarn développe désormais une activité notable en matière de chimie fine. Installé sur le bassin de lac, plusieurs entreprises profitent des restes du gisement ainsi que du classement Seveso du site pour développer leur activité. Le groupe français Arkema y possède un établissement spécialisé dans la thiochimie, 300 salariés entre Lac et Mourant, ainsi qu'un site de fabrication de polyamides et de spécialité amont, 269 salariés. Commerce. 6 images illustrent ce paragraphe. Le CSTJF du groupe Total à Pau, troisième centre de recherche et développement en France. Paysans allant au marché d'Orthez. Costume des aubonnes, femmes portant un tablier et un seau. Marché au bois de Pau. Marchande de pommes. Marché aux bestiaux de Pau. Grâce à sa position géographique et sa politique d'indépendance, le Béarn développe pendant plusieurs siècles une activité commerciale significative. Dès la fin du XIIIe siècle, plusieurs compagnies de marchands se constituent pour organiser un commerce de transit entre le bassin aquitain et le bassin de l'Èbre. La réputation de la monnaie morlane, la surveillance des poids et mesures, ainsi que l'entretien des chemins et des ponts, expliquent ce développement initial. Durant la guerre de Cent Ans, le Béarn profite de sa neutralité politique pour aboutir à la création d'une véritable monopole commercial entre le port de Bayonne, produits textiles d'Angleterre et de Flandre, Toulouse, pastel, et l'Aragon, laine. Ce commerce de transit se poursuit jusqu'au XVIIe siècle. Les marchands constituent alors la classe la plus riche du pays. Au XVIIIe siècle, le commerce de transit laisse place à un double commerce d'importation, laine et cuir, et d'exportation, textile, vin, bois. Le commerce vers les Antilles se développe sensiblement grâce à la présence de nombreux Béarnais exilés. Les exportations souffrent particulièrement à partir de 1789 et tout au long du XIXe siècle, le Béarn perd l'accès à certains de ses débouchés privilégiés, Espagne et Antilles, alors que l'absence de Transpyrénéens, lors de l'arrivée du chemin de fer dans les années 1960, renforce le déclin du commerce béarnais. La très grande majorité du trafic franco-espagnol passe désormais par Irun. La situation géographique du Béarn, auparavant si profitable, devient un frein majeur à l'activité commerciale du pays. Un transpyrénéen est finalement achevé en 1928 via la gare de Canfranc, mais le déclenchement de la guerre civile espagnole en 1936 coupe très rapidement tout espoir d'un nouvel essor commercial. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le Béarn profite de l'amélioration des infrastructures routières pour bénéficier de plusieurs axes commerciaux importants. L'autoroute A64, depuis 1977, conforte le Béarn dans sa position centrale entre Bayonne et Toulouse, tandis que le tunnel du Somport offre le seul accès pyrénéen ouvert toute l'année vers l'Espagne. L'ouverture de l'autoroute A65 depuis 2010 permet d'accéder au nord du bassin aquitain, mais le prix d'utilisation de cet axe le rend peu compétitif par rapport à l'autoroute A63. Outre cette activité de commerce de transit, le commerce de proximité représente un pan important de l'économie béarnaise. Historiquement, ce commerce est présent dans les différents centres urbains béarnais. Depuis les années 1960, des centres commerciaux se multiplient en périphérie des centres-villes. Les foires et marchés tiennent également une place majeure dans la vie économique et sociale des béarnais. Les premières foires apparaissent dès le XIVe siècle à Oloron et Sauveterre de Béarn, puis au XVe siècle à Orthez, Pau ou encore à Rudy. Tourisme. Cette image illustre ce paragraphe. Le boulevard des Pyrénées de Pau à la belle époque. Affiche touristique pour les grottes de Bétarram. Affiche touristique pour les Aubonnes. Affiche touristique pour Sauveterre de Béarn. Affiche touristique pour Salisse de Béarn. Affiche touristique pour le petit train d'Artoust. La station de ski de Gourette. Au milieu du XIXe siècle se développe une activité touristique notable en Béarn. Son essor s'explique par l'installation d'une colonie britannique à Pau, la mode romantique et le thermalisme. Ayant découvert le Béarn lors de la bataille d'Orthez en 1814, les officiers de l'armée de Wellington décident de revenir dans cette région pour passer une partie de leur retraite. L'accueil des Béarnais en 1814, les paysages, le climat et les terrains propices à la chasse à cour séduisent cette population. Frappés par la pureté de l'air, plusieurs médecins britanniques, dont Alexander Taylor en 1842, mettent en avant les vertus du climat palois et préconisant la cure hivernale. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, Pau devient le centre d'une vie aristocratique internationale composée de Britanniques, Nord-Américains, Belges, Espagnols ou encore Russes. Les Pyrénées bénéficient d'un attrait croissant tout au long de ce XIXe siècle, avec le double effet du pyrénéisme et du thermalisme. L'attrait des pins attire à l'urbe Saint-Christo, aux fontaines d'Escaut, aux Aubonnes et aux eaux chaudes, tout comme à Sally de Béarn, dans le Piémont grâce à ses eaux salées. Ce développement contemporain du thermalisme consacre une tradition multiséculaire en Béarn. Les souverains béarnais prennent l'habitude de séjourner en vallée d'Ossau pour bénéficier de ses eaux sulfureuses, de Gaston IV à Jeanne d'Albret. Au XXe siècle, le développement de la pratique du ski bouleverse l'économie de plusieurs communes pyrénéennes. Des stations de ski alpin se mettent en place en Béarn, d'abord à Gourette dès les années 1930, puis la Pierre-Saint-Martin en 1962, et enfin Artoust en 1969. Les stations du Somport et d'Issarbe permettent la pratique du ski de fond. D'autres formes de tourisme se développent désormais en Béarn. Le tourisme urbain s'oriente notamment autour de Pau. Son château est le site le plus visité du Béarn et des Pyrénées-Atlantiques, avec environ 100 000 visiteurs par an. L'écotourisme se développe dans la campagne béarnaise, tout comme le tourisme d'affaires à Pau, autour du palais Beaumont et de son parc des expositions. Au 1er janvier 2019, les communes béarnaises comptabilisent 101 hôtels, représentant un total de 2647 chambres pour les visiteurs. Une note précise, chiffre obtenu en réalisant un comptage auprès des communes béarnaises recensées dans la liste des communes du Béarn. De plus, le Béarn comptait également 52 campings, totalisant 2464 emplacements. Sixième section, quatrième sous-section, monnaie. Deux images illustrent cette sous-section. La tour de la monnaie, symbole de l'activité monétaire de Pau, et l'écu d'or de François Fétius. Territoire autonome. Le Béarn garde le contrôle de sa monnaie pendant plusieurs siècles. La monnaie est d'abord battue à Morlaix, dans le château des vicomtes de la Ourcquie. Le sol morlan a cours régulier dans toute la Gascogne, mais circule aussi en Navarre et Aragon, au moins dès le Xe siècle. Ce sol est marqué par les deux vaquetas, symbole du Béarn, ainsi que la devise béarnaise en latin. Jacques Faguet de Labor estime en 1818 que cette fabrication pourrait être bien antérieure et remonter avant la constitution de la vicomté de Béarn. Les ducs de Gascogne auraient choisi le Béarn pour y fixer la fabrication de leur monnaie, au débouché de la route naturelle commerciale que constitue la vallée d'Aspe pour les Pyrénées occidentales. Les souverains béarnais n'auraient donc fait que reprendre la propriété de cette monnaie, tout en conservant le droit de répandre dans les anciens territoires du duché de Gascogne. Au Moyen-Âge, les monnaies des états voisins sont considérées comme étrangères et n'ont pas cours en Béarn. La monnaie morlane jouit d'une très grande réputation, que ce soit en Gascogne, mais aussi dans le reste du royaume de France. Pierre Tucot-Chalat souligne que Phébus, outre la monnaie d'argent, décide de battre une monnaie d'or, le florin de Morlaix, sur le modèle et le poids des florins d'Aragon et de Florence, afin d'en garantir la conversion. Une note précise, côté pile Saint-Jean-Baptiste, et côté face le Lys. Deux symboles de Florence, avec la marque Dominus Berni ou Phébus Comes. Le privilège de Morlaix pour la fabrication de la monnaie béarnaise s'arrête au XVe siècle. Pau devient la capitale des souverains béarnais en 1464. Ils amènent probablement avec eux des ateliers pour confectionner la monnaie. Mais cette monnaie garde le nom de monnaie morlane jusqu'à la réalisation d'un hôtel de monnaie à Pau en 1524 et la création d'une véritable monnaie de Pau. C'est à cette époque qu'apparaît le teston de Jeanne d'Albret, à la fois dans les ateliers de Morlaix et de Pau. Avec le rapprochement du Béarn et de la France, les différences monétaires se réduisent. Sous François Ier, la monnaie béarnaise est autorisée dans tout le royaume de France. À la même époque, Henri d'Albret réduit la monnaie béarnaise au titre et point de la monnaie de France. Sous le règne d'Henri IV, les monnaies béarnaises et françaises sont définitivement confondues. Les ateliers palois continuent de fabriquer la monnaie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les vaquetas, frappés sur les pièces, sont alors le dernier symbole de leur origine béarnaise, un dicton fort répandu dans le royaume de France prétend que « l'écu à la vache porte bonheur ». En béarnais, jusque dans la première moitié du XXe siècle, le terme de « liure », c'est-à-dire « livre », est un synonyme préféré au mot « franc », et la pistole sert couramment à compter les dizaines de liures. Depuis juin 2015, le Béarn renoue avec la tradition monétaire en émettant la monnaie locale complémentaire, MLC, du Béarn, la tinda. Une note précise, tinda provient du verbe béarnais tinda, c'est-à-dire teinter en français, résonance des cloches attachées au cou des vaches béarnaises. Septième section, culture locale. Première sous-section, sociologie. Deux images illustrent cette sous-section. La case est le socle du système familial béarnais. Et la daune est la maîtresse de maison. La société béarnaise traditionnelle se caractérise par une grande cohésion interne, avec la persistance de modèles culturels profondément originaux. L'âme béarnaise s'exprime par un mysticisme profond fondé dans le culte de la case et dans l'esprit de sacrifice aux valeurs du groupe. L'esprit d'indépendance et le refus de se fondre dans la communauté française se maintient jusqu'à la Révolution. La résistance nationale de la société béarnaise s'explique par les dimensions modestes de l'ancienne principauté et par une organisation simplifiée qui permet d'animer une résistance démocratique et libérale à l'assimilation au Royaume de France. Une note précise, autour des États de Béarn et des assemblées de Bézis. Au XVIIIe siècle, l'amélioration des conditions de vie renforce les bases économiques de la société paysanne, avec une prospérité unique dans le Royaume de France, évoquée par Arthur Young en 1787. Une note précise, la lenteur de l'accroissement de la population contribue au faible développement des villes, de l'industrie et donc au maintien d'une faible classe bourgeoise en Béarn. Une classe de petits propriétaires marque la société béarnaise avec des oppositions moins brutales qu'en d'autres régions. Après la Révolution, le droit coutumier béarnais se maintient malgré sa violation du code civil. La stabilité de la société béarnaise jusqu'au début du XXe siècle s'explique par sa situation marginale à l'écart des grands mouvements économiques, mais aussi, et surtout, par une conscience aiguë de ses valeurs et une volonté résolue de défendre les fondements de son ordre économique et social. La case est la valeur des valeurs par laquelle tout le système familial s'organise. Elle forme la base économique de la famille, un patrimoine qui doit être maintenu. Une note précise, chaque membre de la famille doit subordonner ses intérêts et ses sentiments pour assurer la permanence de la case. Les Béarnais visent d'abord la stabilité du corps social. Les mariages entre héritiers sont donc proscrits car ils mèneraient à la constitution de grandes richesses, à la disparition d'une famille et donc au déséquilibre de la société. La vertu stabilisatrice se mesure aussi à la précocité des comportements malthusaniens en Béarn à partir du XVIIIe siècle et globalement au refus du profit illimité. La domination des pasteurs montagnards transhumants dans la société agro-pastorale béarnaise peut expliquer en partie la nécessité de protéger le domaine foncier du morcellement. Une note précise, les pasteurs montagnards transhumants imposent aux paysans du Piémont des servitudes rigoureuses afin de conserver intact leur chemin de parcours. Dans une société où l'argent est rare et cher, l'essentiel des biens est constitué par la propriété foncière. Le mariage est donc affaire du groupe, il engage l'avenir de l'exploitation familiale. La logique des mariages est soumise à plusieurs principes. L'opposition entre aîné et cadet, la classe des maisons et la suprématie masculine. Une note précise, la grande propriété ne suffit pas à faire la grande famille. Le sens de l'honneur, la générosité et l'hospitalité sont des valeurs importantes. L'ado impose que l'héritier doit avant tout éviter de prendre une femme d'une condition supérieure à la sienne, sinon il se place comme domestique sans salaire. Le mariage entre héritiers est pratiquement exclu. La mère joue un rôle capital dans le choix de l'épouse. Elle est la daune, la maîtresse de maison. Le droit d'aînesse intégral est règle afin de maintenir la patrimoine de la case. Si ce droit d'aînesse n'exclut pas les filles, dans la réalité, l'héritier n'est pas le premier-né, mais le premier garçon. Une note précise, le garçon est préféré car la continuation du nom est assurée. Un homme est aussi mieux fait pour diriger l'exploitation agricole. La défense de la case répond aussi à l'enjeu de la continuité du lignage. Il n'est pas rare que le nouvel arrivant, gendre, héritier ou acquéreur, perde son patronyme au profit de celui attaché à la case. L'autorité des anciens est la clé de voûte de la société béarnaise. Elle s'exerce de façon absolue lorsqu'il s'agit d'imposer le sacrifice du sentiment à l'intérêt collectif. Le cadet doit accepter un rôle de serviteur s'il veut continuer de vivre dans la propriété familiale. Son exil, vers la ville ou les Amériques, est son autre option. Au début des années 1960, Pierre Bourdilleux analyse la société paysanne en Béarn dans son essai « Le bal des célibataires ». Il part du constat d'une hausse sensible du célibat des hommes, les immariables paysans des hameaux. pour en faire le symptôme d'une crise plus profonde de la société traditionnelle, avec un renversement des valeurs. L'autorité des anciens s'affaiblit, le rôle actif de la famille dans le mariage s'amenuise, alors que la qualité de bon paysan est reléguée. Mais le fait essentiel est que la société béarnaise, auparavant relativement fermée sur elle, s'est résolument ouverte. Ces bouleversements s'opèrent à la fin de la Première Guerre mondiale. L'inflation bouleverse les équilibres économiques liés à l'ado notamment, l'éducation apporte des idées nouvelles et les brassages, dont de nombreux réfugiés, ouvrent les sociétés vers l'extérieur. Cette crise de la société béarnaise traditionnelle se traduit par le départ massif des filles vers les bourgs et villes afin de fuir la servitude de la vie paysanne. Elle se traduit aussi par la fin du quartier rural comme unité de vie. Une note précise, avec l'arrêt des travaux collectifs comme Oudières et Liguières, Binage, Pellère, Pelleport, Batère, battage du blé, Espérouquère, dépouillage du maïs et des balles. Malgré l'apparition de la voiture qui raccourcit les distances, l'éloignement psychologique reste. L'opposition entre le monde paysan, autrefois dominant, et le monde citadin, qui a pris le pouvoir, se manifeste le plus nettement au nerf linguistique. Une frontière s'établit entre les fermes isolées, où l'on parle béarnais, et les premières maisons du bourg où l'on parle français. Un univers dans lequel le paysan découvre qu'il n'est plus chez lui. Septième section, deuxième sous-section, emblème. Blason. Deux images illustrent cette sous-section. Le drapeau béarnais devant les Pyrénées. Et blasonnement. D'or à deux vaches, passant de gueule, à cornet, à collet et clariné d'azur. Les deux vaches sont de race béarnaise, elles sont généralement surnommées vaquetta. L'utilisation de cet emblème remonte à l'origine de la création de la vicomté au IXe siècle. Les armoiries de la principauté de Béarn comportent deux vaches béarnaises, depuis sa création au IXe siècle. Les plus anciennes représentations de l'emblème béarnais se retrouvent sur le sceau de Gaston VII de Moncade au XIIIe siècle. L'origine du choix de la vache comme emblème du Béarn conserve une part de mystère. Les auteurs anciens, comme Pierre de Marquin, évoquent l'origine mythique du peuple des Béarnais qui descendait directement du peuple des Vacquéens. Plus rationnellement, des érudits, une note précise dont également Pierre de Marquin, mettent en avant les gras pâturages béarnais propices à l'élevage du bétail à cornes, dans une version populaire de la corne d'abondance. Néanmoins, la vie paysanne béarnaise reste, pendant plusieurs siècles, marquée par son extrême précarité, loin donc de l'image d'abondance. Dominique Bidot-Germain évoque lui une autre piste d'explication avec l'existence de plusieurs contes ouest-pyrénéens associant toujours la vache avec la Vierge. Une note précise, parmi ces contes, l'auteur cite la Madonna de Mijaba, la Vaca Negra, lo Bon Dieu et lo Vaquer, ou lo Prince de las Sept Vacas d'Or. Le bleu des sonneilles autour du cou des vaches rappelant aussi la couleur mariale. L'utilisation de la vache comme emblème se révèle être particulièrement originale, et cela à l'échelle de l'Occident. La vache est une figure rare dans l'héraldique, notamment avec une claire identification depuis le XIIIe siècle comme en Béarn. Une note précise, les armes de la commune anglaise d'Oxford arborent un bœuf depuis le XIVe siècle, alors que la figure du taureau est plus fréquente ailleurs. Symbole du Béarn est source de nombreuses légendes. Une note précise, selon une légende, le vicomte du Béarn défia l'archevêque de Mourla, qui élevait un ours, en lui soutenant qu'une de ses vaches l'emporterait au combat, ce qui se produisit. Les deux vaquettas sont utilisées par la vie institutionnelle de la principauté. Elles orment les armoiries du pays lorsque l'héraldique apparaît au XIIe siècle. La monnaie béarnaise est marquée de leur présence, alors que le drapeau béarnais en reprend le motif plus récemment. Avec « Viva la vaca », le cri de guerre des béarnais, reprend également ce symbole. En 1290, l'union de la maison de Foix avec celle de Béarn fait apparaître de nouvelles armoiries. Le blasonnement évoque « écartelés en 1 et 4 d'or aux 3 pales de gueule et en 2 et 3 d'or aux 2 vaches de gueule à cornet, colletées et clarinées d'azur, passant l'une sur l'autre. » Cet épisode explique également la présence des vaquettas béarnaises au sein des armoiries de la principauté d'Andorre. Chaque coprince de l'état pyrénéen, dont le comte de Foix, disposant de 2 quartiers dans ce blason. Devise. Du XIe siècle au XVIe siècle, les pièces de monnaie béarnaise emploient une devise latine immuable, Pax et Honor, qui matérialise le projet politique de ses souverains. Une note précise, la devise « Gratia Dei sum id quod sum », c'est-à-dire « Grâce à Dieu, je suis ce que je suis », longtemps attribuée au Béarn, est en fait la devise des rois de Navarre. Elle est utilisée sur les pièces de monnaie béarnaise à partir du milieu du XVIe siècle, lorsque la lignée princière obtient la couronne du royaume voisin. Selon le numismate Maximin Desloches, le terme « pax » fait référent à la « paix sociale ». Il est d'accord avec Adrien Blanchet pour voir dans « honor » les droits honorifiques, la seigneurie, le domaine, le territoire, la terre patrimoniale, autrement dit la souveraineté. Hymne. L'hymne officieux du Béarn est « Si Canti » ou « Aqueres Montagnes ». Ce genre est ancestral, son véritable auteur est inconnu, mais la légende l'attribue au prince béarnais Phébus. Chef de guerre, fin politique, chasseur émérite et initiateur de la souveraineté béarnaise. Phébus est également un poète de Languedoc. Selon cette légende, sa belle aurait été forcée de le quitter pour rejoindre la Navarre voisine. Phébus aurait donc écrit cette chanson dans laquelle il souhaite voir les Pyrénées s'affaisser afin de laisser libre cours à ses amours. Écrite plus récemment, au XIXe siècle, la chanson « Bête Céou de Pau » du poète Charles d'Arichon est également considérée dans la culture populaire béarnaise comme un hymne régional. Septième section, troisième sous-section, langue. Une image de Simon Pally en 1909 illustre cette sous-section. Le béarnais est le nom donné au parler occitano-roman du Béarn. Si la linguistique ne le distingue pas du gascon, ces parlers formant un ensemble homogène au sein de l'ancienne Aquitania, l'histoire originale du Béarn constitue un élément distinctif fort. Une note précise, le Béarn est une principauté souveraine dès le XIVe siècle, tandis que la Gascogne devient anglaise puis redevient française dans une province de Guyenne et Gascogne. Avec un Béarn gardant son indépendance, un peu plus longtemps, le parler béarnais aurait certainement fini par constituer une langue à part, comme le néerlandais par rapport à l'allemand. Un vif débat existe sur l'appartenance du béarnais, gascon, à une seule et même langue d'oc ou occitan. Malgré ces débats linguistiques récurrents sur la distinction entre langue et dialecte, il est commun d'estimer que le gascon béarnais présente des particuliers fortes, à la fois phonétiques et grammaticales, dues au substrat aquitain. Le béarnais est la seule langue utilisée par les institutions du Béarn depuis le milieu du XIIIe siècle, jusqu'en 1720. Une note précise, ce sont les notaires, créés en Béarn entre 1229 et 1253, qui abandonnent les premiers le latin pour le béarnais. À partir du XVIe siècle, le nationalisme béarnais, notamment à travers les États de Béarn, passe par la défense de la langue béarnaise face aux Français. Une note précise, l'utilisation du terme « langue béarnaise » est incorrecte d'un point de vue linguistique, mais la vision de la langue du Béarn au XVIe siècle relève de la revendication politique. Avec l'annexion au royaume de France en 1620, le béarnais continue d'être utilisé dans les actes administratifs et judiciaires, concurremment avec le français jusqu'en 1789. Malgré la disparition du béarnais dans ce cadre administratif depuis la Révolution française, son usage reste encore majoritaire auprès des béarnais de la fin du XVIIIe siècle. Dans la lignée du rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française de l'abbé Grégoire, l'État français met en œuvre des politiques pour éradiquer les langues régionales au profit du français. L'école française entre notamment en conflit direct avec l'usage des langues régionales à partir du dernier tiers du XIXe siècle, et ce jusqu'à la première moitié du XXe siècle. De profonds changements sociétaux favorisent également ce recul des langues régionales. Une note précise, comme l'amélioration des infrastructures de transport et de communication, la croissance de la presse et des médias, exclusivement en français, ou encore l'instauration de la conscription. C'est à partir du XXe siècle, et notamment après 1918, que le français s'impose comme langue d'usage dans la majeure partie de la population béarnaise. Durant cette phase de déclin, Cyprien Despourin, Xavier Navarro ou Alexis Perret font toujours vivre la langue béarnaise à travers leurs œuvres. Le béarnais bénéficie d'un important travail de modernisation dès la fin du XIXe siècle grâce à Paul Raymond et Vastin Lespie qui réalisent le premier grand dictionnaire béarnais. Le mouvement du Félix Bridge dynamise ce travail de normalisation moderne au travers de l'école Gastou Phébus. Figure marquante du mouvement, Simon Pally est l'auteur du dictionnaire du béarnais et du gascon moderne en 1932. Jean Bouzet rédige lui un manuel de grammaire béarnaise. L'enseignement du Béarnais connaît un renouveau depuis les années 1980 avec le développement des écoles bilingues Calendretas. Le Béarn compte 9 écoles et un collège de ce type, totalisant 422 élèves scolarisés en 2014. La question des locaux pose problème alors qu'une dizaine d'établissements supplémentaires seraient nécessaires pour répondre à la demande en hausse. Dans une enquête commandée par le département des Pyrénées-Atlantiques en 2018, la langue est parlée par 18% des personnes interrogées du Béarn. Elle est nommée béarnais par une nette majorité des habitants, de 62 à 70% selon les intercommunalités, devant patois, 19 à 31%, et occitan, 8 à 14%. Plusieurs associations font vivre le béarnais dans son expression moderne, comme Père Noste, l'Ostao Béarnais ou l'Institut Béarnais et Gascon. Septième section, troisième sous-section, gastronomie. Cette image illustre cette sous-section, la gavebure, plat typique des paysans béarnais, Henri IV au centre de la légende du la poule au pot, le fromage de brebis des vallées béarnaises, désormais sous l'appellation Ossa-Ujati, Greuil du Béarn, la zone de production du jambon de Bayonne est centrée sur le Béarn. Les vignobles du Jurançon donnent principalement un vin blanc moelleux et le sel de Sally de Béarn. On retrouve en Béarn toutes les spécialités gastronomiques de la cuisine gasconne, dont celles liées aux anatalidés, foie gras. Une note précise, le groupe coopératif béarnais Euralis est le premier producteur mondial de foie gras. Confit, magret ou la palombe. La garbure est la soupe traditionnelle des paysans béarnais. Une note précise, jusqu'en 1914, chaque maison a son four et fait son propre pain pour la semaine. La viande de boucherie n'est achetée que pour des grandes occasions, le reste du temps les produits de la ferme nourrissent, en particulier les conserves de porc, d'oie et de canard. Confectionnée avec les légumes du potager et agrémentée avec du canard confit. La poule au pot, popularisée par Henri IV, ou encore la daube béarnaise, consommée la veille de Noël, sont d'autres spécialités locales. La broie, confectionnée à partir de farine de maïs, est traditionnellement un mets très commun dans les campagnes béarnaises. Le porc occupe une place centrale dans la gastronomie béarnaise avec la confection d'andouilles, saucisses, saucissons, boudins, ventrèches. Une note précise, les mets préparés avec les abats de porc sont nommés les goulgoulissous en béarnais. Le territoire béarnais se situe au cœur de l'IGP Jambon de Bayonne. Il accueille la maison du jambon de Bayonne à Arzac à Raziguet. L'obtention de l'IGP implique que le jambon soit frotté avec du sel des salines du bassin de la Dour, dont notamment le sel de Salis de Béarn, exploité depuis l'âge de bronze. Cette source saline est à l'origine de la création de la cité du sel. Une note précise, une célèbre légende prétend que la ville se serait bâtie autour d'une source salée découverte au cours d'une chasse aux sangliers. De l'établissement du Camisalier, une note précise, le camisalier, c'est-à-dire chemin de sel, est évoqué dès 1500 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit du chemin historique allant du plateau de Gers vers Sally de Béarn et sa production de sel. Et du développement d'une activité importante de thermalisme au XIXe siècle. Le Béarn, et notamment ses vallées montagnardes, est une zone de production fromagère. Le fromage de brebis prend historiquement le nom de fromage de Larrain, afin que sa confection ne soit encadré par l'appellation d'origine Ossa-Ujati depuis 1980. La tome des Pyrénées est un fromage au lait de vache commun à la quasi-totalité de la chaîne des Pyrénées françaises. Confectionné à partir du petit lait, le greuil est une autre spécialité fromagère béarnaise. Les différentes appellations viticoles béarnaises proposent vin blanc, parcheringue et jurançon, rouge, madiran et béarn, et rosé. En cas d'absence de vin sur la table, le paysan béarnais consomme traditionnellement du cidre. Les sources minérales d'Augeux sont connues depuis le Moyen-Âge. Côté sucré, le Béarn compte quelques spécialités dont le pastis bourri, la tourtière ou croustade, les rouquilles d'Oloron et le gâteau russe de la maison d'Artigérède. Durant la période du carnaval, les merveilles et les crespettes sont à l'honneur. La pêche mousse-roussane de Monéen et le kiwi béarnais sont deux éléments de la cuisine béarnaise, tout comme le haricot maïs, le miel des Pyrénées. Une note précise, l'entreprise béarnaise Famille Michaud est le premier producteur mondial de miel. La truite et le saumon sauvage des Gaves. Septième section, cinquième sous-section, costume. Une image illustre cette sous-section, berger et jeune fille de la vallée d'Ossau. Jusqu'au début du XXe siècle, le costume béarnais présente plusieurs éléments caractéristiques. Chez la femme, il est de tradition de ne jamais sortir nu-tête. Elle porte le capulet dans les vallées pyrénéennes ou le cabille, un mouchoir, dans le Piémont. Le vêtement de tous les jours peut être miséreux dans les milieux modestes. Il comporte plus de recherches pour aller au marché voisin. Pour les cérémonies, en jour de fête, la robe corsage fait l'objet d'un soin particulier. Le costume de l'homme est moins divers et raffiné que celui de la femme. Il porte un gilet ainsi qu'une blouse en lin qui est souvent encore tissée, cousue et brodée à la maison à la fin du XIXe siècle. Fabriquée dès le XVIIIe siècle en Béarn, l'espadrille est la sandale traditionnelle du pays. Le costume traditionnel de la vallée d'Ossau est le seul à avoir résisté au temps. Il est toujours revêtu pour les fêtes ou pour les mariages. Le béret ou bonnet est le couvre-chef traditionnel des Béarnais. Qualifié à tort de béret basque, une note précise, la mairie serait à l'origine de Napoléon III qui, en voyage à Biarritz, qualifie le béret de basque. Personne ne veut alors le contredire, la parole impériale. Il est d'origine et de production béarnaise. Une note précise, le mot français béret provient du béarnais béret qui proviendrait du latin biretum. Porté par les bergers de la vallée d'Ossau, il se répand dans l'ensemble du sud-ouest français jusqu'au nord de l'Espagne afin de devenir un véritable emblème français. Le béret était traditionnellement marron dans les vallées avant que le noir ne se généralise. Nez et Oloron-Sainte-Marie sont les deux agglomérations béarnaises à connaître une fabrication industrielle du béret. Plusieurs unités, dont l'Aulaire, assurent toujours une production béarnaise du béret. Le costume ossalois fait l'objet d'une fiche à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Septième section, sixième sous-section, architecture. Cinq images illustrent cette sous-section. Une maison et sa cour en vallée d'Ossau. Une maison de la ville à Lescar. La mairie de Sauveterre de Béarn, typique de l'architecture de plaine. Mur en galets du Gave d'une borde. Une cugelar dans la vallée d'Aspe. Certains éléments sont communs et particulièrement caractéristiques dans l'architecture béarnaise. La présence d'une toiture à forte pente, comprise entre 45 degrés et 50 degrés, et l'utilisation de galets des Gaves pour la construction des murs depuis le XVIIIe siècle. Des différences locales apparaissent néanmoins. Autour de Sally, les maisons sont constituées d'un toit très pointu et couvrant, d'une façade crépie couvrant les galets, ainsi que des tuiles couleur d'argile. Dans les plaines, on intègre de nombreuses fenêtres ainsi qu'une double génoise. Le toit est fait de tuiles rousses et plates. Dans le Vic-Bille, l'influence de l'Armagnac voisine se fait sentir avec la présence d'une pignon triangulaire qui prolonge la façade au-dessus de la porte d'entrée. Enfin, la maison des Vallées est couverte d'ardoises tandis qu'une cour protège l'ensemble des communs. Bien que caractéristique des vallées pyrénéennes, l'utilisation de l'ardoise est aussi très répandue dans le reste du Béarn. Son usage se réduit en allant vers le nord et l'ouest. Il faut également ajouter l'architecture des granges, les bordes et les cabanes de montagne, les cujalas. Depuis les années 1980-1990, des maisons qualifiées de néo-béarnaises sont construites par les promoteurs immobiliers du Béarn. Celles-ci reprennent les principales caractéristiques de la maison béarnaise traditionnelle, comme le toit fortement pentu et l'utilisation de l'ardoise ou de la tuile rousse. L'utilisation du galet dans le processus de construction est marginalisée dans ces constructions modernes. Au cours des années 1990 et surtout 2000, des maisons de type néo-provençal se sont développées de manière anarchique et incontrôlée dans les certaines zones périurbaines du Béarn. Les pouvoirs publics ont depuis mis en place des recommandations pour éviter le développement de cette architecture mal maîtrisée. La généralisation progressive des plans locaux d'urbanisme à l'échelle des intercommunalités, au plus tard fin 2019, doit permettre de répandre les bonnes pratiques en matière de préservation de l'identité architecturale du Béarn. Septième section, septième sous-section, musique et chant. Trois images illustrent cette sous-section. Yann, du groupe Nado, hommage à Cyprien Desbourin à Accou, et danse béarnaise en vallée d'Ossau. Le Béarn est surnommé le pays des chants. La tradition des chants polyphoniques y est fortement ancrée. La cantère est une pratique sociale avec des règles musicales et humaines très fortes. ainsi qu'une pratique très variée. Une note précise, suivant l'endroit et le moment, la cantère s'opère en duo fraternel, réunions amicales autour d'une table ou rassemblements festifs de plusieurs dizaines de chanteurs. Le corpus de chants rélevés en Béarn est composé de plusieurs centaines d'items. Une note précise, dans son anthologie de la chanson béarnaise, André Ourcade en recense plus d'un millier. Les chants béarnais ont pour point commun d'exprimer des sentiments tendres, des idées douces et des images riantes plutôt que l'éclat de la gaieté et les bruits des fêtes. À la manière des contes, ils évoquent par exemple la naissance des pics pyrénéens, l'absence de l'être aimé, les amours impossibles ou encore les luttes de la communauté contre ses adversaires. Certains chants béarnais sont intemporels, à l'image de Si Canti, attribué à Phébus. Cyprien des Pourrins est le plus populaire des chansonniers béarnais. Ses ballades, Là-haut sur la montagne, Racinole qui cantas, ou De cap a tousei Mario, sont des classiques populaires du XVIIIe siècle. Une note précise, des classiques qui pèsent également à Louis XV avec l'interprétation de Pierre de Géliot. Toujours dans ce siècle, Pierre de Géliot reste maître de la scène française pendant 22 ans. Il est régulièrement invité à la cour de Louis XV. Au XIXe siècle, les airs de Xavier Navarro bénéficient d'une popularité importante comme Adieu Médou, King Galère. Des Pourrins avaient pour lui la grâce mélancolique. Navarro se démarre par la malice et l'esprit caustique et ses textes. C'est au cours de ce même XIXe siècle que Charles d'Arichon écrit son célèbre Beit Seu de Pau. D'origine aspoise, Marcel Hamon enregistre de nombreux disques en béarnais depuis les années 1960, reprenant des chansons traditionnelles ou adaptant des textes d'auteurs comme Jacob de Gassion, Alexis Perret ou Simon Palais. Il en désole régulièrement du manque de considération de l'État français pour cette langue et cette culture. Le groupe Nado est un groupe gascon béarnais qui célèbre cette culture à travers de nombreuses chansons dont De Capta Immortella et L'Incontanda. Créé en 1967, le festival de Ciro a permis un nouvel essor de cette activité. La scène béarnaise se compose actuellement d'une multitude de groupes, reprenant des chants traditionnels et assurant une création originale. La danse béarnaise est le plus souvent réalisée avec un accompagnement instrumental. En Vallée d'Ossau, des chansons à danser subsistent également. Le répertoire des danses béarnaises comporte plusieurs centres de danse, dont la crabe, loup mounicou ou loup branlou. 7e section, 8e sous-section, littérature. C'est au milieu du XIIIe siècle que les premiers textes en prose béarnaise sont réalisés. Il s'agit de textes notariaux et administratifs. Il faut attendre le XIVe siècle pour observer l'émergence d'une poésie béarnaise avec Phébus. Le souverain de Béarn est un artiste accompli qui rédige des poèmes, notamment d'amour, en béarnais. Hormis ce bref épisode, la littérature béarnaise reste cantonnée à un usage juridique et religieux. Une note précise, Arnaud de Salette passe pour être le premier écrivain à revendiquer une écriture en rima béarnaise dans sa traduction du Psautier de Genève, composé entre 1568 et 1571, puis publié en 1583 à Orthez. Il est à noter l'œuvre marquante de Pays de Garros dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Une note précise, auteur d'origine gasconne mais qui finit ses jours à Pau. Au cours de ce même XVIIe siècle, Jacob de Gassiou est l'auteur de plusieurs sonnets, tandis que Jean-Henri Fondeville rédige des pastorales ainsi que des pièces de théâtre. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, l'œuvre de Cyprien des Pourrins marque profondément la littérature béarnaise. Ses chansons et poèmes connaissent un succès très important de son vivant, qui inspire ensuite nombre d'écrivains en langue béarnaise ou gascogne, dont Xavier Navarro au XIXe siècle. Toujours dans ce siècle, Alexis Perret, émigré béarnais en Argentine, rédige plusieurs poèmes en béarnais. Durant le XXe siècle, Simon Palais est l'auteur de nombreuses poésies, pièces de théâtre et romans, tout comme Albert Pedroutet ou plus récemment Hubert Lux. En langue française, des auteurs béarnais comme Joseph Perret, prix Goncourt 1935, Pierre-Emmanuel et Francis Jam se distinguent au XXe siècle. Les contes et légendes tiennent une place centrale dans la tradition écrite et orale des Béarnais. Ils contribuent à la mythologie pyrénéenne. Les thématiques sont adaptées à la culture de ce territoire, avec souvent l'environnement naturel, montagne, cave, comme élément central. Les fées, les sorcières, les loups et les ours sont des personnages fréquents, tout comme les bergers du côté humain. Parmi les contes béarnais, l'histoire de Jean de l'Ours est particulièrement célèbre. Plus récemment, on retrouve le personnage de Ramponneau dans le rôle de Croque-Mitaine. Dans la première moitié du XXe siècle, le personnage Cadetot d'Ernest Gabart devient emblématique dans l'esprit des Béarnais. Toujours dans la tradition orale du Béarn, quitte à ensuite déborder dans le genre littéraire, les dictons et proverbes sont nombreux. Quasiment chaque village béarnais possède un ou plusieurs dictons caractéristiques de ses habitudes, mœurs, superstitions, croyances ou faits historiques. Les proverbes béarnais sont teintés de l'art sous du sous-entendu. L'Académie de Béarn est une société savante, fondée en 1924, destinée à protéger et développer les mouvements littéraires, artistiques et savants béarnais. Septième section, neuvième sous-section, rassemblement. Six images illustrent cette sous-section. Noces aux Saloises de Ramiro Aru. Fête de la Saint-Jean aux Aubonnes. L'estanguet désigne l'auberge traditionnelle du Béarn. Le roi sans pansard pendant le carnaval biarnais. Luz Canchares au printemps de la Ribera. Et confection d'une garbure pendant la garburade. La société béarnaise se rassemble traditionnellement à l'occasion des travaux agricoles communs, des cérémonies familiales et des fêtes. La pélère ou pelle-porc et l'espérouquère sont l'occasion de grands rassemblements entre voisins de quartiers ruraux. L'espérouquère dure par exemple 3 semaines à 1 mois à l'automne. Elle réunit 40 à 50 jeunes pour dépouiller le maïs, avec pour finir une fête à Calbalès. D'autres travaux collectifs marquent la saison paysanne. Oudière et liguère de la vigne, la tournière ou la bugade. La naissance, le mariage et l'enterrement sont les 3 moments de rassemblement les plus importants. Une note précise, durant l'enterrement, les premiers voisins du défunt visitent maison par maison l'ensemble des familles du quartier. Le mariage béarnais est l'occasion de diverses traditions, comme la seigue et la roste. 2 notes précises, la seigue désigne la tradition de la barrière. Lorsque le cortège nuptial s'engage sur le chemin qui conduit à l'église, il se heurte à un obstacle symbolique qui barre la rue. Pour faire lever la seigue, il faut payer parents et amis d'une redevance. Et les invités portent aux époux la roste, soupe ou vin chaud, après leur coucher. Et des rituels de désapprobation dont le charivari, la jonchée et la souade. Une note précise, la souade, du mot béarnais assou, c'est-à-dire âne, correspond à un comportement plus violent encore que le charivari. La victime est juchée de force sur un âne, mais à l'envers, devant traverser la ville. Cette pratique se raréfie dès le XVIIe siècle. Jusqu'à 1914, les bals sont très fréquents en milieu rural, pratiquement chaque semaine. Ils permettent aux jeunes de se fréquenter. La comice agricole représente souvent la grande fête annuelle du village. L'estanguet est le nom traditionnel des auberges des campagnes béarnaises. La saison des manifestations culturelles commence en janvier et février avec la tenue de plusieurs carnavals, notamment à Gérons, entre les villages de la vallée de Josbay, et Pau, durant le carnaval biarnais. En avril se déroule l'au printemps de la Ribera à Saint-Pré-de-Lérin. Les chanquères œuvrent à la transmission de la culture béarnaise au travers de sa langue, ses danses et chants. Toujours en avril a lieu le festival des vallées et des bergers à Oloron-Sainte-Marie. Le feu de la Saint-Jean marque la manière traditionnelle le début de l'été, juillet étant ensuite marqué par la tenue des fêtes du fromage de la vallée d'Aspe à Estaut et Escaut. La junte de Roncal se tient chaque 13 juillet depuis le XIVe siècle. La période estivale permet la tenue de diverses fêtes patronales, dont celle de l'Arin le 15 août, ainsi que du festival estivoque à Pau. L'association Septembre en Béarn a pour objectif de promouvoir les fêtes traditionnelles béarnaises qui se déroulent chaque année de fin août à début octobre. Il s'agit de la période de l'année la plus riche en manifestations en Béarn. Garburade à Oloron-Sainte-Marie, fête du sel de salice de Béarn, foire au fromage de la Reims, fête du maïs de Laz, fête de berger à Arami et festival de sirop. Le Béarn possède une ancienne culture taurine. Une note précise, dès 1469, un texte évoque une course de vaches du côté de Mourmour, qui se traduit par l'implantation de plusieurs arènes, proches des territoires gascons, à Orthez, Garlin et Arzac-Raziguet. Le reste du Béarn est resté peu réceptif à la tauromachie, et notamment à la corrida espagnole. Une note précise, les arènes en bois sont par exemple construites à la fin du XIXe siècle à Pau. Lors d'une demande infructueuse de construction en dur d'une arène de 10 000 places, les promoteurs expliquent vouloir y mettre en place une scène, la seule course portugaise, car début de citation, nous désirons tenir compte des sentiments de la population paloise, nettement hostile aux barbaries et aux boucheries inutiles. Fin de citation. Des arènes sont construites à Pau, puis détruites. Arène de la Croix du Prince et arène de la Haute Plante. Fin de la troisième partie de l'enregistrement. La section 8, l'infobox et l'indication de la licence sont dans la quatrième partie de l'enregistrement.